France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Depuis 1952, tous les 10 ans, la revue britannique Sight & Sound propose son classement des 100 meilleurs films de tous les temps. Et cette fois-ci, coup de théâtre, les 1639 spécialistes à travers le monde ont choisi le film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Bye bye les éternels premiers, le film réalisé par Chantal Akerman en 1975, détrône Citizen Kane et Vertigo. Mais qu'est-ce que Jeanne Dielman? Qui est Jeanne Dielman et qui a vu Jeanne Dielman? Et pourquoi est-ce le meilleur film de tous les temps?
Le film, c'est trois journées de la vie d'une femme, qui a une vie très très organisée, bardée contre le hasard. Cette femme vit seule avec son fils, elle est veuve, et depuis la mort de son mari, elle a continué exactement à vivre de la même manière que comme s'il était là, parce que il n'y a pas obligatoirement la nécessité d'un homme pour que, si vous voulez, on joue son rôle. L'ordre symbolique est tellement fort. Bon, et bon, de toute façon, pour continuer à vivre, elle reçoit des hommes de 5h à 5h30 tous les jours, sauf le week-end. Et au bout de la fin de la deuxième journée, tout cet univers très organisé va commencer insidieusement à se dérégler. Il y a une série d'actes manqués, si vous voulez, il y a son inconscient qui commence à parler. Je ne vais pas raconter la suite.
Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, traductrice et critique de cinéma. Voilà, on vient d'entendre un extrait de Jeanne Dielman, le film de Chantal Akerman, qui a été réalisé en 1975 et qui a été élu le meilleur film de tous les temps. Ça résume assez bien ce qu'on vient d'entendre, l'ambiance du film. Effectivement, on vient d'entendre Jeanne Dielman qui prend son bain et ce film, avant d'être des images, c'est d'abord du son.
Oui, alors il faut citer, je pense, le titre entier. Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Quai du Commerce, c'est pas un hasard, on va en reparler, mais c'est important la dimension exhaustive de l'adresse, et la question même de l'adresse d'ailleurs, hein, puisque c'est l'adresse de cette femme. Est-ce que cette femme a les moyens dans son existence? Est-ce que son existence, qui est entièrement une existence prisonnière, comme le disait Chantal Akerman dans l'archive qu'on a entendue, d'un ordre symbolique dont elle est la servante, est-ce que cette existence lui laisse les moyens de s'adresser, elle, d'avoir une adresse? Bon, ça va être une des questions qui se posent, mais le son, en effet, qu'on entend là, et ça, dans sa durée, hein, puisque c'est un film qui dure 3h20, et c'est une des raisons d'ailleurs qui font que c'est une révolution, en fait, qu'il ait été pour la première fois choisi premier comme le meilleur film, hein, de tous les temps, et c'est une des raisons qui a suscité des réactions, comment dirais-je, de très mauvais joueurs. Je pense par exemple à, au mauvais cinéaste, selon moi, Paul Schrader, également scénariste, la même époque que Jeanne Dielman, hein, de Taxi Driver, qui a eu une réaction assez, enfin, extrêmement inélégante en disant que c'était l'exemple d'un distorted woke reappraisal, hein, une réévaluation de l'histoire du cinéma distordue, on pourrait dire déformée, selon des critères woke. Voilà comment il a qualifié la victoire de Jeanne Dielman, qui pour ma part m'a rempli d'une immense émotion.
Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, comme je l'ai dit de manière un petit peu provocante, que ce film, et vous l'avez dit, qui dure 3h20, c'est peut-être avant même des images, une histoire de sons, et on l'a entendu, des images en fait des sons du quotidien, donc là on a entendu un bain qui coulait, mais c'est aussi des portes qui se ferment, des interrupteurs qu'on entend claqueter à chaque fois, un lit qu'on fait, la vaisselle qu'on fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça, que c'est plus un film de son que d'image?
Alors, je dirais, c'est plus un film de son que de langage. C'est un film d'espace-temps, littéralement, disait Chantal Akerman, mais on y reviendra. Donc, l'image joue un rôle aussi essentiel que le son, et on peut pas les dissocier. Cependant, ce qui fait, comme vous le remarquez à juste titre, et comme les auditeurs là qui ont entendu ce moment, en réalité, qu'on a coupé, qui est beaucoup plus long dans le film du bain que prend Delphine Seyrig au début du film, après avoir reçu son premier client parce qu'elle est contrainte pour survivre, de se prostituer tous les jours. Donc le son là, il est d'autant plus saillant qu'il n'y a pas de dialogue. Généralement, ce que les spectateurs appellent, sans toujours nécessairement y réfléchir, le son d'un film, ce sont les dialogues. Son et dialogue, c'est pas pareil, en vrai. Et d'ailleurs, on sait très bien dans la vie que des gens peuvent parler et puis...
Et ne rien dire.
Voilà, c'est-à-dire que ça fait du bruit, on pourrait dire, d'une certaine manière c'est du son. Est-ce que le bruit et le son c'est pareil? Bien sûr que non. Et il faut le rappeler, d'autant plus qu'on est à la radio, que c'est pas du tout la même chose, en vrai, le bruit et le son. Donc tout ça, déjà, ce sont des notions très complexes, mais que, organiquement, le spectateur va ressentir avec Jeanne Dielman. Mais la question, c'est que c'est un film où cette femme, qui est réduite, non pas à la solitude, mais à ce que vivent les femmes quand elles sont prisonnières de la dimension carcérale de la femme au foyer... Hein, c'est ce que nous raconte ce film, c'est l'isolement. Elle est dans l'isolement, cette femme, dans un isolement qui peu à peu le spectateur va expérimenter la dimension insoutenable, et il va l'expérimenter à commencer par le son, en effet, c'est-à-dire dans l'isolement, en l'absence de langage. C'est quoi le langage? C'est pas des mots qu'on met les uns derrière les autres, c'est un lien, c'est un lien humain. Là, il n'y a pas cette dimension du lien humain. Donc il reste le son, il reste en effet le bruit de l'eau qui coule et qui va devenir assourdissant. En fait, ce qu'on entend, c'est un silence assourdissant. C'est pour ça que le son est tellement, presque grinçant, il résonne tellement fort dans le corps du spectateur. Voilà.
Et est-ce que vous êtes d'accord aussi, Hélène Frappa, pour dire que ce film, Jeanne Dielman, ne raconte pas véritablement une histoire, c'est pas une intrigue, c'est pas haletant. On a entendu cette archive de Chantal Akerman qui date de 1975 où elle fait un très bon résumé de son film où elle dit, voilà, Jeanne Dielman, c'est trois journées de la vie d'une femme, c'est la vie organisée d'une veuve avec son fils de 16 ans qui se prostitue et puis cette vie va être déréglée. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces événements, la mort du père, la relation avec son fils, sa prostitution, ne sont jamais au centre de la mise en scène. Donc ça raconte pas cette histoire-là, Jeanne Dielman.
Alors, ça raconte pas cette histoire-là, mais néanmoins, je serais pas d'accord pour dire que ça raconte rien. Je pense qu'il y a une dramaturgie. Alors déjà, ça se passe en trois journées. C'est-à-dire que les trois journées sont marquées par des cartons, fin de la première journée, fin de la deuxième journée, puis ensuite, le film s'achève à l'issue de ce qui va conclure, logiquement, la troisième journée. Ces trois actes, c'est une tragédie. C'est une tragédie grecque. Est-elle exactement grecque? Ça, on pourra en reparler. Je suis pas sûre que grec soit exactement le mot. En tout cas, c'est une tragédie selon, en effet, le déroulement aristotélicien, on pourrait dire, de la tragédie. En même temps, il y a un suspense dans le film. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une série de répétitions. Alors, il y a la dimension répétitive des gestes d'une femme qui est veuve, qui se lève tous les matins, qui n'a pas, qui est pauvre, qui a du mal à payer son loyer.
Donc, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de vie sociale.
Sa vie sociale est réduite au fils dont elle s'occupe, dont elle est, on pourrait dire, même la servante, hein, puisqu'elle le sert à table, elle débarrasse son assiette, elle lui apporte ses vêtements. Elle cire ses chaussures tous les matins. Donc, il y a la répétition obsessionnelle des mêmes gestes, au point d'ailleurs que Chantal Akerman racontait, et c'est très intéressant, que sa sœur lui avait dit en voyant le film, et on dirait, ça m'a rappelé notre enfance, donc avant, jusqu'à ses 8 ans, Chantal Akerman vivait avec ses parents et son grand-père, et puis, et le grand-père était religieux, un juif très religieux, et donc toute la famille était astreinte à un rituel, lui-même obsessionnel, qui est celui de la religion juive, enfin de toute religion, mais rituel lui-même astreint à un sens, à une présence. Dans le film, on voit, le rituel, il est là. Faire toujours les mêmes gestes, se lever, cirer les, enfin, commencer par allumer la lumière, aller dans la salle de bain, se laver les mains, éteindre la lumière. Mmh. On comprend bien qu'il faut faire des économies parce qu'elle a, elle a pas d'argent, il faut faire gaffe à l'électricité. Revenir dans le couloir, allumer le poêle, etc. Tous les gestes sont détaillés, ce sont tous les mêmes. Mais il n'y a pas, c'est un rituel sans Dieu. Sinon, cet ordre symbolique qui est celui du mari absent, c'est un Dieu. On pourrait dire que Dieu est mort, mais en fait, il n'est pas tellement mort. C'est cette institution du mariage qui continue à fonctionner, même si le mari est mort. Géraldine, au départ, vous...
Est-ce que c'est un film sans histoire?
Ah voilà, la dramaturgie. Alors moi, ce qui m'a fait rire en voyant les réactions du classement de Sight and Sound, c'est que pendant longtemps, donc le film qui avait régné pendant tous les 10 ans, qui était élu depuis 52 meilleurs films du monde, c'était Citizen Kane de Orson Welles, bon, un film que personnellement, j'adore pas, mais peu importe. Et puis est arrivé Vertigo, un film que là j'adore totalement, un film d'Hitchcock il y a 10 ans, qui, là, a été rétrogradé à la deuxième place. En réalité, les spectateurs de Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, quand ils voient ce film, ils ont un film radical, un film de Chantal Akerman, un film révolutionnaire du point de vue de l'histoire du cinéma, mais ils ont aussi un film d'Hitchcock en le voyant. Moi, ce qui m'a frappé en le revoyant, c'est la proximité du film de Chantal Akerman avec Le crime était presque parfait d'Alfred Hitchcock, 1954, où l'issue est identique, hein, c'est-à-dire que c'est une femme que son mari veut tuer, ça c'est Hitchcock, que le mariage a tué ou veut tuer, ça c'est Chantal Akerman, et qui va à un moment s'emparer d'une paire de ciseaux pour se débarrasser de son agresseur. Alors chez Chantal Akerman, on va y revenir, c'est en réalité le meurtre final, mais le meurtre final qui est très important parce que comme dans une tragédie, il est absolument annoncé dès le début et tout conspire pour arriver jusqu'à ce moment-là, il a une signification un peu différente que dans celle de celui d'Hitchcock. Néanmoins, il y a un suspense. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la répétition des mêmes gestes, c'est la répétition des mêmes gestes, mais ça se dérègle. À un moment, le rituel va s'enrayer, quelque chose va déconner. Et là, le spectateur va être, il y a quelque chose vraiment d'haletant dans le rythme même, se demander ce qui est en train d'arriver à cette femme.
Et avant que le rythme se dérègle, Chantal Akerman nous fait véritablement plonger dans le quotidien de Jeanne Dielman. Et ce quotidien, il est fait de tâches ménagères et de très courts échanges avec sa voisine.
Voilà.
Vous n'étiez pas occupé à manger au moins ?
Non.
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme repas ?
Oh, le mercredi, du veau pané avec des petits pois et des carottes.
Ah oui. Moi, vraiment, aujourd'hui, j'avais aucune idée. C'était rien que pour moi. J'aurais mangé une petite tartine de rien du tout et c'est tout. Vous savez, depuis que je fume, j'ai plus fort faim. Les enfants, il faut bien qu'ils mangent un peu de viande. Alors, je suis partie sans savoir. Il y avait une longue file chez le boucher. Tous les jours, je me dis que je ferais mieux d'y aller soit plus tard, soit plus tôt, pour ne pas devoir attendre. Mais là, j'étais contente. Je me dis, je vais écouter ce que les autres femmes demandent. Ça va peut-être me donner des idées. Ça m'a encore plus découragée. Il y en avait qui demandaient du haché de pain au meilleur veau. Alors je me disais, C'est certainement pour faire du pain nouveau. Et j'en avais déjà fait hier avec la compote de pommes. Et puis je me disais, je suis bête. C'est certainement pour faire du hachis. Mais toujours du hachis. Enfin, comme ça mon tour est arrivé. Et j'avais encore rien choisi. Alors j'ai vite demandé exactement la même chose que la femme qui était avant moi. Et je me suis retrouvée avec un kilo de veau à 300 francs. J'en aurai pour 2 jours au moins. Et personne n'aura folle de veau chez moi. Et les enfants vont de nouveau tout laisser. Et on dit que dans le veau, il n'y a plus de vitamines. Et maintenant, on ne peut même plus manger de poisson. On peut en mourir, vous savez. Et si je ne devais pas aller la chercher à l'école tous les midis? Mais mon mari dit qu'il mange mal là-bas. Et comme ils sont déjà si petits pour leur âge, ah, celui-là, si ça n'avait dépendu que de moi.
Voilà, Jeanne Dillemann discute avec sa voisine dont elle garde le bébé à peu près un quart d'heure par jour. Voilà le type d'échange de sociabilité que Jeanne Dillemann peut avoir au quotidien. Donc ça se réduit quand même à très peu, tellement au point qu'on n'entend même pas la voix en fait de Jeanne Dillemann interprétée par Delphine Seyrig. Il n'est question en fait, la matière même du film et de l'échange n'est fait que de ce qu'on ne montre jamais, ce dont on ne parle jamais en fait au cinéma, à savoir les repas, la préparation des repas, le fait qu'on fasse du pain de veau ou du hachis, le fait qu'on fasse le lit, le fait que faire la vaisselle, ça prend pas 30 secondes, mais un quart d'heure. C'est tout un ensemble de gestes indignes du cinéma qu'on voit
oui,
à l'écran.
C'est du déchet. Presque, on pourrait dire. À l'époque du montage physique des films, on parlait des chutes. C'est tout ce qui n'est pas gardé, mais c'est tout ce qui est de l'ordre du déchet, au point qu'on peut se demander si la femme même qui est réduite à vivre cette existence n'est pas elle-même considérée socialement comme un déchet. C'est le déchet, et puis c'est ce qui est invisible. Alors, il y a il y a un génie de la mise en scène dans ce film, et il faut se rappeler que c'est une jeune femme de 24 ans qui réalise ce chef-d'œuvre. Il y a quelque chose d'assez inouï, d'inouï dans l'inspiration, vraiment au sens grec pour le coup, de quelqu'un qui serait visité. D'ailleurs, elle a été visitée, Chantal Akerman. Elle dit qu'elle était sur son lit un jour, et puis dans une sorte de demi-sommeil, elle a vu Jeanne Dillemann. Donc dans un état hypnotique, en fait, elle a eu cette vision. Et je pense que ça a à voir avec la sensation hypnotique aussi qui s'empare du spectateur. Et donc, je disais, la mise en scène, ces mouvements de caméra dont on sait que un cinéaste comme Gus Van Sant, par exemple, les a repris à l'identique. Pour un autre film. Il les a étudiés plan par plan. Ils ont cette particularité par moment, enfin, plus que par moment, régulièrement, de faire que la star du film s'en absente. C'est-à-dire que lorsque la caméra... Enfin, ce sont des plans fixes qui, à chaque fois, sont très longs et qui ont plusieurs points de vue sur... Elle peut, quand la caméra est installée à un certain point de vue dans la cuisine ou dans le salon, c'est un tout petit appartement. Donc, on voit un salon, qui est la chambre qui se transforme la nuit en chambre du fils, la cuisine, on n'aperçoit pas, on ne verra jamais vraiment le petit balcon de la cuisine, un couloir, et puis à la fin, on va finir par voir sa chambre et puis la salle de bain. Donc, quand elle sort du champ, elle s'absente, elle disparaît.
La caméra reste fixe et nous, on a l'impression qu'on reste bêtement à fixer.
Reste fixe.
Une pièce vide, en fait.
Voilà. Il y a une dimension presque un peu de caméra de surveillance, c'est-à-dire que la caméra reste là et elle peut s'en absenter. Là, dans l'extrait qu'on a vu, on voit donc dans une porte, il y a une porte entrebâillée, et puis cette femme qui parle, la voisine, on ne la verra jamais. On verra un bébé qui arrive, qui est posé quelques minutes et qui repart ensuite. Et on entend dans cet échange, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de langage en fait. Il y a quelque chose de déchirant dans ce dialogue, plutôt dans ce monologue, parce qu'à ce moment-là, Jeanne Dillemann ne parle pas. Elle accueille comme ça ce discours de monocorde. Et ce qu'on peut entendre là-dedans, c'est l'absence totale de plaisir. Parce que c'est aussi le sujet de Jeanne Dillemann, et c'est ça qui va provoquer le meurtre final. Non pas l'absence de plaisir, mais l'arrivée du plaisir.
Le surgissement du plaisir.
Voilà, on en parlera. Mais parce qu'il est impossible dans cette existence. Il est interdit, le plaisir. Donc c'est la répétition des repas. C'est l'ennui. C'est cette dimension complètement monocorde, c'est le ton monocorde de la voix de cette femme, c'est tout ça qui fait que on a ce paradoxe finalement de la vie d'une femme au foyer, qui est qu'on pourrait penser que quand son fils part tôt le matin et avant qu'il ne rentre tard le soir de l'école, qu'elle a du temps à elle. Après tout, elle a, je sais pas, peut-être 10 heures par jour toute seule. En réalité, elle n'a pas une seconde à elle. Tout est complètement millimétré. Et il y a un moment d'ailleurs, quand ça commence à se dérégler, où entre deux tâches, soudain, elle se retrouve avec un peu de temps et où elle se fait un café. Et elle n'a pas le droit à ce temps-là. Donc, elle n'est pas capable de profiter de cette tasse de café, de ce moment de respiration, de cette récréation, on pourrait dire, et de ce moment où elle va expérimenter le temps lui-même, sans qu'il ne soit rempli par une tâche complètement inutile. Donc, comme vous le savez bien, vous aviez consacré il y a quelques années une chronique au texte de Simone de Beauvoir. Ça m'avait beaucoup marqué sur cette idée que la femme, quand elle est réduite à ses tâches ménagères, elle passe sa vie à répéter, finalement, à nettoyer un appartement qui va se ressalir, à le renettoyer, c'est Sisyphe.
Oui, c'est un supplice.
Voilà.
Où effectivement, chaque fois, on œuvre pour une chose qui ne fera jamais œuvre, en fait, qui ne va jamais rester, qui va jamais s'installer, que personne ne va remarquer, que personne ne va reconnaître, ni effectivement nous remercier. Vous avez parlé de la question de l'aliénation. Hélène Frappa, c'est ce qu'on voit effectivement dans ce film. L'aliénation qui est ambiguë, parce que c'est pas simplement un isolement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement prisonnière de son quotidien, Jeanne Dielman. Elle-même, en fait, se fait prisonnière. C'est-à-dire qu'elle est presque consentante à cette prison, puisque elle millimètre, elle minute chacun de ses gestes pour tromper l'angoisse. C'est ce que explique Chantal Akerman dans un des entretiens qu'elle accorde quand le film sort en 75. Il s'agit de ne pas laisser aussi de place à la liberté parce que ce serait trop vertigineux.
Oui, elle consent à sa captivité. Il y a une historicité. La condition féminine a une historicité. Elle est définie par son historicité. Il n'y a pas de nature, ça n'existe pas. De manière générale, c'est un terme philosophiquement très contestable, la question de la nature. Mais il n'y a pas une nature du féminin qui impliquerait, sui generis, qu'une femme devrait être enfermée dans sa cuisine comme Jeanne Dielman. En revanche, il y a une historicité très, 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 très ancienne, et c'est ce qui fait aussi le poids de ce mot de la tragédie. Tragédie, c'est un mot, tragédie grecque, c'est un mot que Chantal Akerman a employé à propos de son film. Donc, cette tragédie, elle la précède, elle est là, elle va la vivre, et en effet, elle y consent. Moi, je suis frappée de voir qu'en 1975, à l'époque, donc, quand Jeanne Dielman est présentée à Cannes, il va sortir en début 76, la même année, aux États-Unis, il y a un très très grand film qui s'appelle Stepford Wives, les femmes de Stepford, un film de Brian Forbes, sur un scénario de Ira Levin, un grand écrivain de science-fiction qui a écrit notamment Rosemary's Baby. Et donc c'est un film qui raconte exactement la même histoire, sauf que les femmes de Stepford, ce serait Jeanne Dielman qui aurait réussi, c'est-à-dire c'est une jeune femme libre qui va se retrouver embarquée par son mari avec son enfant dans une banlieue parfaite, chic de New York, et qui va en fait être victime, c'est de la science-fiction féministe, d'un complot qui vise à lobotomiser les femmes, littéralement. Je veux dire, il les enferme, il les lobotomise, il les transforme en robots, ce qui fait qu'elles deviennent de parfaits robots de tâches ménagères, de parfaits robots sexuels, où elles peuvent même mimer, il y a une scène assez extrêmement drôle là-dessus, mimer le plaisir avec un homme dont, un mari dont le moins qu'on puisse dire dans le film, c'est qu'il n'est pas extrêmement désirable. Voilà. Donc c'est Jeanne Dielman qui aurait totalement réussi, en quelque sorte, Stepford Wives. Mais le sujet est exactement le même. Enfin, qui aurait réussi, sauf que dans Stepford Wives, il y a une telle rébellion de la femme qu'il faut la lobotomiser. Là, c'est comme si elle était déjà, en quelque sorte, lobotomisée, c'est-à-dire qu'elle est robotisée. Elle a consenti à être cadavérisée, jusqu'au moment où la pulsion de vie, à travers la question du plaisir, va surgir à la fin, mais dans un système carcéral et dans un système où la liberté n'est pas possible, ça va absolument tout foutre en l'air, en fait.
Et puis, il faut quand même parler du choix de Delphine Seyrig, parce que elle-même, Chantal Akerman, dit que c'est un contre-casting absolu. À l'époque, Delphine Seyrig était connue pour Baiser volé de Truffaut, pour être la marraine dans Podane de Demi, pour l'année dernière à Marienbad. Donc, en fait, elle a rien à voir avec l'image qu'on se figure de la ménagère Delphine Seyrig. Mais Chantal Akerman justifie son choix en disant justement, elle savait qu'en mettant Delphine Seyrig devant la caméra, le spectateur regarderait chacun de ses gestes et ne serait pas en fait pris par autre chose ou ennuyé, il serait parfaitement attentif à ce qui se déroule, justement à ces gestes très ritualisés du quotidien.
Oui, on peut dire que de ce point de vue, choisir Jeanne Dielman comme meilleur film de tous les temps, c'est choisir un film de deux femmes, en réalité. C'est-à-dire, comme la critique Camille Nevers l'a remarqué dans son article dans Libération, il y a une réalisatrice, actrice et une actrice, autrice. Enfin, il y a deux autrices dans ce film, qui sont aussi bien Delphine Seyrig que Chantal Akerman. Delphine Seyrig, Akerman lui avait fait lire son scénario, ne pensant pas du tout le lui donner ou ayant probablement une idée derrière la tête. Et Delphine Seyrig, aussitôt, avait dit « Je veux jouer cette femme ». Alors, en même temps, c'est comment dire, les actrices font en grand ce que font toutes les femmes. C'est ça leur boulot. Donc, elles vont mettre, comment dire, elles vont agrandir notamment la question de la condition féminine. C'est vrai que Chantal Akerman disait, si ça avait été ma mère qui avait joué ce rôle, hein, ma mère qui était elle-même enfermée dans sa cuisine à Bruxelles, hein, elle a écrit plusieurs livres magnifiques, notamment consacrés à sa mère Chantal Akerman, dont un qui s'appelle Une famille à Bruxelles, hein, qui est un monologue d'une femme qui est sa mère, hein, qui est sa propre mère, et c'est sidérant de voir que c'est une version Ashkenaz de Jeanne Dielman, d'une certaine manière. Alors, ça serait quoi une version Ashkenaz de Jeanne Dielman? C'est très intéressant de se poser la question. Ben, ça serait une version avec humour. C'est ça la tragédie. C'est que dans l'univers de Jeanne Dielman, il n'y a pas d'humour possible. C'est quoi l'humour? L'humour, c'est le plaisir. C'est la même chose. C'est une des formes dont l'être humain éprouve du plaisir avec la sexualité, la nourriture, avec le lien, avec le langage. Et puis, dans l'humour juif, on sait bien que c'est le plaisir tel qu'il est vécu à travers un jeu de langage. Ce jeu de langage, il est interdit. On l'a bien vu dans l'échange, le monologue, par exemple, de la voisine. C'est que l'absence d'humour est à se tirer une balle dans la tête. C'est-à-dire qu'à aucun moment...
Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de distance.
Et puis, il n'y a pas de lien. Parce que l'humour, c'est quoi? C'est toujours, comme dit Jerry Seinfeld, c'est à la fois idiot et en même temps une analogie. L'analogie, c'est l'intelligence. Et ça peut être une analogie entre deux choses idiotes. Par exemple, une pomme de terre et autre chose. Sauf que là, il n'y a pas d'analogie. Il y a juste la pomme de terre. Donc, l'humour n'est pas possible. En tant qu'il est la dimension du plaisir. Delphine Seyrig, pourquoi prendre Delphine Seyrig? Je disais, elle fait en grand ce que font toutes les femmes, et en même temps, elle va rendre visible, du coup, quelque chose, une condition qui est en soi totalement invisible.
Vous avez parlé, Hélène Frappa, d'humour, mais aussi du fait que ce soit deux femmes, hein, Chantal Akerman et Delphine Seyrig, qui sont au cœur de ce film, aux mains de ce film. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film féministe? Et deuxième chose, est-ce qu'on peut dire, puisqu'il n'y a pas d'humour, que c'est un film chiant? Parce que ça, ce sont deux clichés, ou en tout cas deux choses qu'on peut dire du film et qui peuvent lui être reprochées, film chiant ou film féministe, justement. C'est la critique qu'on a fait pour ce classement.
Alors, comment dire, je milite pour que ce serait bien qu'à partir de maintenant, et même depuis toujours, tous les êtres humains... non seulement soit féministe, mais en réalité soit humaniste. Il n'y a aucune différence, rappelons-le, entre le féminisme et l'humanisme, puisque le féminisme, c'est une lutte contre une des formes de discrimination qui vont, atteindre une partie de la population humaine, qui sont les femmes. Effectivement, il n'y a pas de raison à ce que seules les femmes, pour autant qu'elles le soient toutes, soient féministes, de même qu'il n'y a aucune raison à ce que seuls les Noirs militent pour les droits des Noirs, seuls les Juifs militent contre l'antisémitisme, etc. Donc ça, c'est hyper important. Après, en effet, et il est évident que la remarque stupide et inélégante de Paul Schrader est une remarque misogyne, et réac. Les deux évidemment sont liés, sans aucun doute, et que on peut qualifier ce film de film féministe. Mais c'est surtout un film, je dirais, oui, d'un humanisme absolument déchirant. Après, c'est vrai qu'en 75, quand le film est à Cannes, Delphine Seyrig, elle joue dans trois films qui sont présentés à Cannes, trois films réalisés par des femmes, dont India Song aussi de Marguerite Duras, donc il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est vrai qu'à ce moment-là, Delphine Seyrig, depuis les années 70, depuis qu'elle a signé le manifeste donc dans le Nouvel Observateur pour le droit des femmes qui ont déclaré avoir avorté, etc., est une militante féministe. C'est vrai qu'en 76, elle va réaliser ce film. Elle va faire des films avec Carole Roussopoulos, des très très beaux films. Et elles vont co-réaliser ensemble une série de films magnifiques comme Scum Manifesto. En 76, elle fait ce film génial qui s'appelle Sois belle et tais-toi, où elle va justement interroger la condition féminine à travers les actrices. Moi, je dirais que ce qui est génial dans Jeanne Dielman, c'est que l'actrice... En quoi elle nous interroge, en quoi elle interroge la condition féminine? C'est que l'actrice, elle est regardée. C'est son job. Son boulot, c'est d'être vue. Et non seulement d'être vue, d'être réduite à ce regard. Alors déjà, on voit que dans Jeanne Dielman, l'actrice, elle a le droit d'échapper au regard. Parce que, de temps en temps, quand elle sort d'une pièce, elle n'est pas suivie, contrôlée. Exactement comme Hitchcock suivait et contrôlait ses actrices sans jamais arrêter de les stalker, on peut dire. En même temps, Delphine Seyrig, dans ce film, n'est pas seulement l'objet donc, du regard de Ackerman, mais elle devient elle-même sujet. C'est-à-dire qu'en étant vue dans le film, elle fait voir. En étant vue, elle fait voir cette femme au foyer qui, comme le dit Ackerman, serait complètement invisible si elle l'avait fait jouer par sa mère. Donc de ce point de vue-là, il y a une subversion. C'est-à-dire que, sans même qu'on ne s'en rende compte probablement à l'époque, Delphine Seyrig dans Jeanne Dielman est objet et sujet du regard. C'est en ça on peut dire historiquement que c'est un grand film féministe.
Et sur le côté chiant?
Alors, le côté chiant, là, je pourrais carrément m'énerver. Je pense que d'abord, toutes les grandes œuvres évolutionnaires, souvent, sont chiantes. L'ennui n'est pas un argument. D'abord, l'ennui, c'est quoi? C'est un problème philosophiquement du temps. C'est le problème du temps. C'est qu'on trouve, quand on s'ennuie, on trouve le temps long. En vrai, la question du temps, elle est vraiment au cœur de Jeanne Dielman, parce que Chantal Ackerman disait souvent, et ça m'a beaucoup frappée, que quand même, quand vous allez au cinéma, c'est pas le cas de la lecture. Quand on écrit des livres, c'est pas la même chose. Bon, moi, elle m'a fait comprendre un truc génial dans cette phrase, c'est que les écrivains aimeraient que le lecteur lise d'une traite son livre. Mais enfin, on peut pas enchaîner, malheureusement, un lecteur et l'obliger à lire le livre d'une traite. Au cinéma, quand vous allez dans une salle, vous voyez le film, voilà. Et Ackerman, Chantal Ackerman en conclut, donc le cinéma en fait vous vole une heure et demie de votre temps, il vous prend une heure et demie, là il vous prend 3h20, et elle ajoute, et c'est magnifique, il n'a pas le droit le cinéma de vous prendre une heure et demie, de vous les enlever et de vous les voler avec un film qui n'a aucun intérêt, qui vous a volé une heure et demie de votre temps. Vous devez, à l'issue de cette une heure et demie, ou plutôt de ces 3h20 de Jeanne Dielman, être différent, avoir fait une expérience, avoir changé. Et si au milieu, faire cette expérience, toutes les expériences, elles impliquent une part d'ennui. Pourquoi est-ce que les parents disent aux enfants qu'il faut s'ennuyer un peu, plutôt que de passer sa vie sur des écrans? Parce qu'il n'y a pas d'expérience formatrice et de sensation de l'existence sans ennui. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'ennui, il est connecté à la question de la liberté. L'ennui, il est jamais très éloigné de l'angoisse, de l'expérience de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est une des manifestations de la liberté. Il faut un certain courage. Par ailleurs, à une époque où, en Italie, un pouvoir fasciste règne et un programme culturel qui est entièrement déterminée à supprimer les œuvres chiantes, intello, etc. En France, on a des partis d'extrême droite qui ont noir sur blanc écrit dans leur programme qu'il faut subventionner les œuvres au succès. Donc cette question de l'ennui, pour moi, elle est quand même très politique. Il faut faire super gaffe de ce point de vue-là à cet argument, disons, démagogique de l'ennui. Et je pense qu'il faut maintenir, de même que les parents, les bons parents ont tendance à dire à leurs enfants, bon bah tu t'ennuies, bon bah ok, très bien.
Vite, je vais te donner quelque chose à faire pour te nourrir, non. Très vite.
Expérimente ça aussi, ça veut pas dire que tu vas passer tes journées à t'ennuyer, mais que ça fait partie de la condition humaine. Et ben oui, il y a quelque chose dans cette manière de vivre, de vivre dans son corps ce film, y compris avec cette empathie qui est le propre d'une œuvre d'art. C'est que ça nous fait vivre l'ennui mortel que vivent ces femmes au foyer. Et ça, c'est l'éthique de ce film. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire semblant de transformer ça en un film d'action avec l'attention spam.
Pas un divertissement.
Voilà, l'attention spam de 6 minutes. Je vous le rappelle, aux États-Unis, ils adorent mesurer les trucs. Ça veut dire que maintenant, au bout de 6 minutes, les êtres humains s'emmerdent. Eh ben non, là, ça dure 3h20, il faut faire cette expérience existentielle. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, à la fin, on est complètement changé. Moi-même, je l'ai revu, je ne l'avais pas vu depuis 30 ans ce film, je l'ai revu pour l'émission. Mais je peux vous dire qu'au bout de 3h20, j'ai compris des choses sur moi-même, sur le livre que j'étais en train d'écrire, sur mon existence, sur mes liens avec les autres, que j'ignorais avant d'avoir vu ce film, y compris avec des moments, oui, où c'est un peu fatigant, où il y a une baisse de l'attention, mais où le corps reste entièrement en prise avec... Il y a un lien. Et l'art, ça sert à faire du lien.
Tu lis comme ça tout le temps sans t'arrêter, tout à fait comme ton père.
Oui, je sais, tu m'as déjà dit ça. Mon père, comment tu l'as rencontré?
Pourquoi tu me demandes ça juste maintenant?
Je venais de lire le mot miracle. Et je pensais à tante Fernande qui disait toujours qu'elle avait rencontré Jack par miracle.
Oui. Il est venu en 44 nous délivrer. Il jetait des chewing-gums et du chocolat. Et nous, on leur jetait des fleurs. Et ton père, je l'ai rencontré quand les Américains étaient déjà partis. Moi, j'habitais chez les tantes parce que mes parents étaient morts. Et un jour, j'étais allée au bois de la Cambre avec une amie. C'était un samedi. Je me souviens plus quel temps il faisait. Mon ami le connaissait. Tu sais bien quel ami. Je l'ai déjà montré sur des photos. On s'est revus un peu. Je faisais les factures en face. Mais j'étais très mal payée. Et chez les tantes, c'était triste. Je savais pas si j'avais envie de me marier. Mais de toute façon, ça devait se faire. Tout le monde le faisait. C'était dans l'ordre des choses, comme on dit. Et puis les tantes disaient, c'est un brave garçon. Il a de l'argent. Il te rendra heureuse. Mais j'hésitais encore un peu. J'avais vraiment envie d'avoir un chez moi, de partir de chez les tantes et d'avoir un enfant. Et puis, je sais plus ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il a fait de mauvaises affaires, alors je l'ai épousé. Tu sais, ça arrivait après la guerre. Les tantes ne voulaient plus. Elles disaient qu'une belle fille comme moi pouvait tomber mieux, que si j'attendais un peu, je trouverais un homme qui me ferait une belle vie. Ils ont commencé à dire qu'il était laid, qu'il était ci, qu'il était là. Je n'écoutais personne.
Et s'il était laid, tu avais envie de faire l'amour avec lui?
Laid, bah laid, tu sais, ça n'avait aucune importance, ça ne faisait rien. Et tu sais faire l'amour, comme tu dis, c'était un détail. Et puis je t'avais. Et puis il n'était pas si laid que ça.
Et tu aurais eu envie de te remarier?
Non, je m'aurais habitué à quelqu'un d'autre.
Mais avec quelqu'un que tu aimes?
Pauvre, tu sais.
En tout cas, moi, si j'étais une femme, je saurais vraiment pas faire l'amour avec quelqu'un que je n'aime pas complètement.
Mais tu ne peux pas savoir, tu n'es pas une femme. J'éteins.
Oui, si tu veux.
Dors bien.
Oui.
Alors, il faut qu'on aborde quand même le sujet du fils de Jan Hillman. Donc, il s'appelle Sylvain. Ils ont deux dialogues hein, vraiment importants dans le film. On vient d'en entendre un. C'est le premier sur le père disparu du fils. Mais quelle drôle de conversation. Alors, la deuxième monte encore plus loin. Enfin, va encore plus loin, en tout cas, dans le degré presque de gêne. Parce qu'on se demande que vient faire ce dialogue-là très cru avec son fils sur... La question du père, d'accord, mais la question de la sexualité de ses parents, alors là, ça semble sorti de nulle part, presque. Hélène Frappa.
Oui, au début du film, pendant quasiment une heure, le fils revient, donc il met les pieds sous la table, elle le serre, il lit pendant qu'il mange, elle doit à chaque fois lui faire remarquer de ne pas lire devant sa mère qui mange, etc. Bref, tout ça se passe dans un silence de mort.
Voire une indifférence, hein, presque, du fils pour la mère.
Oui, une invisibilité, oui. Elle est invisible. Littéralement, c'est la femme invisible. C'est pour ça, pour en revenir à Delphine Seyrig, que c'était d'autant plus important de prendre cette star hollywoodienne, finalement, pour que la femme tellement invisible devienne un peu visible. Et au moment où il commence à parler, moi, je me suis dit, ouf, quand même, il y a du langage qui surgit dans cette famille. Et puis après, il commence à parler, et là, en effet, le malaise est assez... Il y a une étrangeté. Voilà, il y a une étrangeté complètement. En même temps, il y a quelque chose d'assez déchirant où finalement ce garçon ne comprend pas d'où il est né, d'où il vient. La question que se posent tous les êtres humains, c'est ça en fait. Hein, d'où je viens. Alors, on peut l'entendre dans plusieurs sens, mais à commencer par le fait de la naissance, d'où je viens. Pourquoi est-ce que. Bon, est-ce que je suis. De quel désir suis-je né? Là, il n'y a pas de désir. C'est une vie sans désir. Il y a cette phrase quand même assez extraordinaire où elle dit, bon, en gros, mes tantes voulaient projeter sur moi une forme de pour le coup, c'est un cliché misogyne. C'est l'idée que la femme, elle doit épouser, elle doit avoir un, comment dirais-je, une vision intéressée de l'homme et puis elle doit faire un beau mariage, le beau mariage. Elle, elle dit, bon, bah, c'est, j'ai attendu qu'il soit ruiné pour l'épouser. Déjà, il y a quelque chose, on sent, où elle subvertit quand même le modèle. Elle va vers le pire.
Et elle s'oppose à ses tantes.
Et elle veut surtout se barrer absolument d'une première condition carcérale chez ses tantes. Alors, on notera qu'à la fin de la scène, et c'est d'autant plus saillant hein, quand on l'entend comme ça à la radio, que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, et là on l'entend, ce que ça veut dire d'avoir une actrice qui est réalisatrice du film. C'est quand même elle qui dit couper à la fin. Elle dit j'éteins. Ça veut dire couper. J'arrête la scène là. Et elle l'arrête sur quoi? Elle l'arrête quand le fils a dit à moi, si j'étais une femme, j'aurais besoin de tomber amoureux pour faire l'amour avec un homme. À quoi elle répond avec sa voix toujours. Enfin, c'est la voix de Delphine Seyrig qui est, comment dirais-je,
hypnotisante.
Aucun adjectif réel. Ne serait à la hauteur de cette voix pour la qualifier. Et flottante, un peu, voilà. Elle lui dit, mais tu n'es pas une femme. Ce qui est quand même un bras d'honneur, en quelque sorte, mais qui est plus qu'un bras d'honneur. C'est pas du tout un bras d'honneur, en vrai, c'est un peu idiot ce que je dis. C'est surtout, c'est la question du point de vue et de l'empathie. Il est évident que cet homme, ce jeune homme, ne se met pas à la place de cette femme qui est sa mère. Donc, puisqu'il ne se met pas à sa place, comme le film entier ne cesse d'être à la place de son personnage, eh bien, juste, tais-toi. Alors après, c'est vrai qu'il y a une autre scène plus tard où le fils semble obsédé. Alors, il y a quand même un non-dit, c'est que sa mère, quand lui, il est à l'école, tous les après-midi, elle reçoit un client, elle se prostitue, et Chantal Akerman montre de manière tout à fait crue ce que c'est que cette prostitution, parce qu'on a l'impression qu'elle fait ça comme elle éplucherait des pommes de terre. C'est quand même pas tout à fait la même chose, puisque à l'issue du premier client, elle prend longuement un bain qui dure très longtemps, où elle se récure vraiment avec un gant de toilette tout le corps. Scène qui n'est pas sans rappeler la scène archétypale que toutes les femmes racontent lorsqu'elles ont été victimes d'un viol, qui est la scène de la douche. Donc il y a quelque chose. Alors il y a beaucoup de rituels de purification qui ont une dimension assez religieuse, d'ailleurs religieuse sans Dieu.
Elle passe son temps à se laver les mains, à relaver la vaisselle.
Voilà. Mais il y a quelque chose de quel crime dont elle ne serait pas l'auteur, hein, avant le meurtre final, a-t-elle besoin de se laver, de quelle saleté que la société lui inflige, puisque on parlait de déchets, hein, donc est-ce que elle vit comme si elle était dans une sorte de poubelle, en quelque sorte, la poubelle de la société complètement invisible. Voilà, qu'est-ce qui fait que cette femme a besoin de se laver en permanence? En tout cas, sans doute que le fils, d'une manière ou d'une autre, ressent quelque chose du défilé de ces hommes et a une sorte de... Il y a une question, en effet, sur la sexualité et surtout sur l'absence de désir dont lui-même est né. Et il y a quelque chose d'insoutenable pour lui.
C'est intéressant d'ailleurs parce que la question du plaisir, en fait, on pourrait dire qu'elle surgit à partir du deuxième jour, quand elle va jouir, parce que le temps avance, Hélène Frappa, donc on va passer à cette scène, à partir du moment où Jeanne Dielman va jouir avec son deuxième client, donc du deuxième jour. Mais en fait, la question du désir, mais aussi du plaisir, elle surgit en fait la veille, dès le premier jour, avec son fils qui lui demande en fait ce que c'est que d'être une femme qui fait l'amour. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le croyait être un personnage à côté, indifférent, à côté de la plaque. Et finalement, c'est lui qui pose cette question-là.
Il pose cette question, c'est-à-dire, en fait, il pose la question du sujet. C'est-à-dire, qui es-tu en tant que sujet? On a l'impression qu'il ne la voit pas. Alors, il la pose à sa manière sans doute un peu folle. Il y a quelque chose d'assez fou dans ce dialogue. Ça sera encore plus fou la deuxième fois, mais probablement parce qu'elle a tellement pas répondu en même temps que du coup il va en rajouter encore une couche et être encore plus cru, être encore plus bizarre. Il a une bizarrerie, ne serait-ce que dans l'accent flamand. Ils parlent pas la même langue tous les deux, on a l'impression.
Oui.
La question de la langue, elle est très importante chez Chantal Akerman, puisque quand elle, dans son dernier texte, Ma mère rit, qui est un texte extraordinaire qu'elle a publié juste avant son suicide, il est question juste à un moment de notre langue qui est le yiddish, en fait, cette langue non parlée mais qui hante absolument toute l'œuvre. Donc là, voilà, eux ne parlent pas la même langue. Lui, il est hanté, il va renvoyer, mais il lui renvoie une bonne question d'une certaine manière. La question du sujet, qui es-tu en tant que sujet? Et ce qu'elle lui répond, c'est, au fond, sans le dire clairement, c'est coucher avec tous ces hommes, me prostituer, c'est pareil, qu'avoir épousé ton père, c'est-à-dire c'est un détail la sexualité. C'est juste, elle met une serviette tous les jours, elle met parmi ses rituels. On voit pas la chambre avant la fin, sauf quand les moments où elle pose une serviette sur le lit avec quelque chose de d'assez dégueulasse. Enfin, il y a quelque chose d'un peu, très déprimant dans cette serviette de bain posée sur le lit avant de recevoir les clients et avant la scène finale. Mais lui, il essaye. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose de dingue d'interroger sa mère là-dessus. Mais en même temps, il interroge là un être humain sur la question du désir, qui est la question de la subjectivité. Et elle renonce. Et avant l'orgasme final, il y a quand même quelque chose qui surgit du côté du désir, du côté de la subjectivité. C'est la couleur rose. Hein. Je rappelle cette phrase merveilleuse que disait toujours Audrey Hepburn. Quand ça ne va pas, disait-elle, je m'habille en rose. Hein, mettez du rose quand ça ne va pas. Think pink, elle disait même. C'est une phrase comme ça qui a l'air de rien, mais qui est extrêmement belle, parce qu'en plus Audrey Hepburn revenait de loin, elle aussi, dans un style pas si éloigné d'ailleurs de Chantal Akerman. Et donc, ça commence là à se dérégler. Quand elle reçoit un cadeau de loin, de ce pays, hein. C'est pas l'Amérique, c'est le Canada. Mais quand même, il y a quelque chose de...
La fameuse tante Fernande.
Voilà, il y a quelque chose du côté du rêve, il y a quelque chose, on n'est pas à Hollywood, mais presque. Et c'est une ravissante chemise de nuit rose, transparente, presque hollywoodienne. Et à partir de là, vraiment, la tragédie va pouvoir s'accomplir.
Mais ça commence aussi à partir d'une pomme de terre mal cuite. Il y a plusieurs sources de dérèglement. On écoute ce moment tout de suite.
Maman ? Tu es toute décoiffée.
Je sais trop cuire les pommes de terre.
On parle maintenant de Jeanne Dielman, le film de Chantal Akerman, qui est une jeune réalisatrice belge, très jeune, je crois, 24 ans, avec Delphine Seyrie, qui est un film assez long, puisqu'il dure 3 heures et un peu...
3h20 minutes.
Pour vous, c'est un film que vous aimez assez, Chantal?
C'est un film que j'aime beaucoup.
Ah, fichtre. Bon, je ne m'attendais pas à ça de vous, mais je suis très content. On me demande la parole dans la salle. Quelqu'un à côté de vous reprend le micro, oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, après la visite du deuxième client... C'est à ce moment-là que les choses se dégradent peu à peu. Oui. Elle oublie de refermer la soupière, etc. Donc, si on est un petit peu conscient...
Vous savez, j'ai vu le film, hein ?
Ok, très bien. Si on est... Moi aussi. Si on est un petit peu conscient, on se rend compte que c'est lié au deuxième client. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ce film, il y a un suspense qui est introduit parce qu'il y a une pomme de terre qui brûle. Et c'est peut-être la première fois que ça arrive dans l'histoire du cinéma.
Bon, alors, ce qu'il faut dire, Régis, ce que tu ne sais peut-être pas... Oui. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la jeune fille qui vient de parler est l'auteur du film.
Chantal Akerman, qui interrompt les présentateurs et les critiques du Masque et la Plume en 1976, en leur expliquant en fait son film, c'est quand même un moment génial. Et effectivement, on l'a entendu. Alors, il y a plusieurs sources de dérèglement. La première, c'est quand même d'avoir joui avec un client alors qu'il n'y a pas de place pour le plaisir dans cette vie. Et puis, peu à peu, une patate mal cuite. Une chemise de nuit envoyée par sa sœur, une chemise de nuit rose, un fils qui pose des questions et tout effectivement se dérègle, ce qui pose le temps de la temporalité, la question de la temporalité justement qui était si bien construite et qui tout à coup, des choses trop en avance, des gestes décalés, montre qu'une catastrophe est en train de surgir, Hélène Frappa.
Oui, c'est-à-dire que tout était ordonné pour que l'angoisse n'arrive pas. En fait, l'angoisse était là, massive, mais il y avait des petits rituels qui faisaient en sorte que l'angoisse, donc la liberté, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'est une des manifestations de la liberté, ne soit toujours mise comme sur ce balcon où elle passe son temps à aller mettre les pommes de terre.
Mais qu'on ne voit jamais, d'ailleurs.
Et qu'on ne voit jamais, voilà. Est-ce qu'elle n'a pas de frigidaire ? Probablement, donc elle met les choses sur le balcon. Bon, et puis à ce moment, effectivement, où la panique arrive et où elle se met, on dirait comme dans un dessin animé, un poulet qui court sans sa tête. Elle se met à courir dans l'appartement avec ses pommes de terre trop cuites. On comprend pas bien au début ce qui se passe et elle court d'une pièce à une autre, etc. Et c'est très drôle d'abord l'intervention de Chantal. C'est là qu'on voit l'humour incroyable de Chantal Akerman qui se dédouble en quelque sorte, qui va dans la salle en tant que fausse spectatrice pour jouer ce rôle qui est alors qu'elle parle de son propre film. Elle emploie le mot suspense. Elle a raison. En même temps, ce que faisait Hitchcock avec le whodunit, c'était précisément de prendre un élément totalement dérisoire. Hein. Une femme disparaît, c'est une toute petite chanson ou un sachet de thé qui va être comme ça à l'origine de toute la mécanique du suspense. Bon, ben elle, c'est la version féminine, hein, femme au foyer du whodunit, c'est-à-dire la pomme de terre. Hein. On sait que Marguerite Duras aussi avait une passion pour la soupe poireau pomme de terre. Mais pourquoi? Parce que tout ça, c'est le point de vue de Pénélope, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, c'est le point de vue historiquement féminin de celle qui va rester dans sa cuisine pendant que l'homme va sortir, soit travailler dehors, soit aller à l'école, soit faire la guerre, soit etc. etc. Et qu'est-ce qu'elle fait dans sa cuisine? Elle épluche les pommes de terre. Et puisqu'elle épluche les pommes de terre et qu'elle les prépare, eh ben, prenons ce matériau-là et faisons-en un peu comme faisait... Enfin non, j'allais comparer ça à l'art brut, ça n'a rien à voir en fait. Mais faisons-en la matière même de la dramaturgie.
Et jusqu'ici, il y avait une construction presque d'illusion en temps réel, une construction de la figure de la femme au foyer ménagère. Et là, cette construction, en fait, s'effrite. C'est-à-dire que... Et on se rend compte que justement, mais c'est vrai, et d'ailleurs, on la voit peler ses pommes de terre de manière très agacée. Delphine Seyrig presque s'anime, en fait. Elle est agacée, elle fait tomber une brosse qui sert à cirer les chaussures de son fils. Et elle ne contrôle plus rien.
Et sa peau rougit. Et ça, c'est très beau, parce que ça fait penser...
Et ses cheveux aussi.
Ça fait penser à ce que disait pour le coup Hitchcock. Et je rapproche l'univers hitchcockien depuis le début. Enfin, je fais une analogie entre Hitchcock et Akerman, parce que je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux univers-là. Mmh. Il disait justement qu'il filmait des blondes avec la peau très claire pour les voir rougir et les faire rougir. Alors évidemment, le contraire absolu, c'est qu'il y avait une forme de cruauté. L'idée, c'était de les voir mourir en quelque sorte, d'assister à leur meurtre. Là, oui, elle est quand même cadavérisée pendant tout le film, et puis il y a un moment où l'angoisse arrive, la peau de rousse de Delphine Seyrig va se marbrer de rouge, comme elle va se marbrer totalement de rouge au moment de l'orgasme, où elle a, final, avec le client, se marquer comme ça, de rouge ou de rose, hein, dans un univers entièrement gris, blanc cassé, grisâtre, où il n'y a aucune couleur,
marron, et puis on la voit nettoyer des bibelots moches.
Voilà, même quand elle sort dans la rue, tout est gris, etc. Donc il n'y a aucun plaisir, même esthétique, et là, quelque chose va surgir et va tout dérégler. Parce qu'on pourrait se dire, elle n'a pas les moyens existentiels, elle n'a pas la possibilité dans la vie carcérale qu'elle mène d'accueillir le plaisir comme quelque chose qui va la remettre en vie ou comme une forme d'épiphanie, une révélation. Elle ne peut pas. Ça arrive comme quelque chose qui menace l'ordre endiguant l'angoisse. Donc il faut tuer le plaisir. Alors elle ne peut pas tuer le plaisir, parce que le chien n'aboie pas, comme dirait Spinoza, on ne peut pas tuer le plaisir, c'est trop abstrait. Alors elle tue l'homme qui lui a donné le plaisir.
Et bien justement, on va écouter cette scène, Hélène Frappa.
Thank you.
Ça y est, alors ce n'est pas la scène finale de Jeanne Dielman, mais après il se passe le choc, la sidération de Jeanne Dielman. Jeanne Dielman jouit une deuxième fois, c'est le troisième jour, et elle décide de prendre la paire de ciseaux. Alors est-ce que c'est une décision justement ou un geste impulsif? Elle prend la paire de ciseaux qui est sur sa coiffeuse et elle tue le client qui était allongé sur son lit. Marguerite Duras n'aimait pas cette fin. Elle trouvait que le film aurait eu plus de force si on s'en était tenu finalement aux tâches ménagères et à l'ennui de cette femme, de Jeanne Dielman. Mais au contraire, Chantal Akerman disait que tout le film se tenait autour de ce meurtre parce qu'elle voulait en faire une tragédie.
Oui, c'est assez magnifique de repenser à cette toute petite jeune femme de 24 ans qui donc, à l'issue de la projection de son film à Cannes, accueille les louanges de Marguerite Duras, de la grande Marguerite Duras, du phallus, on pourrait dire Marguerite Duras, pour reprendre les termes d'Akerman qui dit que Jeanne Dielman tue le phallus. Et qui, donc elle adore le film, alors la preuve en est qu'elle elle répète, elle est folle, ce qui pour elle est le compliment ultime qu'on puisse accorder à ce personnage, à cette héroïne. Mais elle s'insurge, Duras, contre la fin. Et là, Chantal Akerman, 24 ans, lui tient tête très vigoureusement, au point qu'elle se demande même après comment elle a eu ce courage-là. Moi, ça me fait penser à Antigone, une petite Antigone, une jeune Antigone, qui va comme ça s'insurger. Donc la tragédie grecque. En même temps, Antigone, quand on voit... C'est qui Antigone? C'est cette jeune femme qui va faire basculer, faire tomber une institution, l'institution du mariage et toute l'institution masculine qui est celle précisément qui enferme Jeanne Dielman. Elle l'a fait tomber comment, dit Hegel dans le texte magnifique qu'il consacre à Antigone? Par l'ironie. L'ironie féminine fait tomber la communauté. Et tant pis si Antigone se fait massacrer ensuite. D'une certaine manière, elle échappe à la tragédie comme ça. Jeanne Dielman, elle n'a pas les moyens, malheureusement.
Il n'y a pas d'ironie, vous l'avez dit.
Il n'y a pas d'ironie possible. Donc, il faut qu'elle aille au bout. Et Chantal Akerman, bien sûr, a raison. Et son film est absolument comme un film de suspense, comme un film d'action hollywoodien. Il n'y a pas de différence dans la dramaturgie. C'est comme un film de Michael Mann. Vous voyez une tragédie grecque comme Collateral, par exemple. Vous voyez comment chaque seconde, tout bascule dans l'intrigue, dans la manière de filmer peu à peu, de voir les lumières qui arrivent de l'extérieur aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très étrange, la manière dont tout l'extérieur est absent et se projette avec des lumières extrêmement violentes qui sont très agressives. Voilà, tout conspire jusqu'à ce meurtre qu'elle ne peut pas ne pas accomplir.
Et d'ailleurs, elle tue un corps aussi, parce que c'est un film qui est assez désincarné. Delphine Seyrig, elle n'est pas excitante, elle n'est pas sexualisée, on la voit jouir, mais ça n'est pas excitant comme scène. Donc elle tue le corps, elle tue le plaisir, elle tue le corps aussi.
Elle tue le corps du client.
Oui.
Et elle tue son propre corps, oui. Elle demeure dans ce... Elle reste esclave d'une vie dévitalisée et robotisée.
Merci beaucoup Hélène Frappa, merci d'avoir parlé de Jeanne Dielman, 23 quai du commerce 1080 Bruxelles, élu meilleur film de tous les temps, il faut le voir, même si c'est ennuyé, justement parce que c'est chiant comme vous l'avez dit Hélène Frappa. De vous on peut lire votre prochain roman qui paraîtra le 4 janvier 2023 aux éditions Actes Sud et qui s'appelle Trois femmes disparaissent, et en attendant, pendant les vacances, on peut aussi lire de vous vos derniers romans, Le Mont Fuji n'existe pas et Le Dernier Fleuve, toujours aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive.
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure d'Alest, Eve Coulot, réalisation Somaya Dabèche, Nicolas Berger, prise de son Étienne Rouche et Jordan Fuentes. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, sur le site de France Culture à la page de Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.